Bon, eh bien, on décolle, on démarre aujourd'hui. Mon nom est Éric Lantier. Je veux saluer les gens qui sont en ligne avec nous. Il y a différentes églises qui suivent la célébration ici, peut-être parce qu'ils n'ont pas de pasteur ou qu'ils n'ont pas nécessairement de ressources dans leur région. Et spécialement, bien, ce dimanche-ci, on a l'église de la Haute-Gatineau à Maniwaki. On les accueille chaleureusement. Merci d'être là. Alors, Dieu est bon. Mon nom est Éric Lantier, c'est moi qui vais être l'orateur ce matin. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, par applaudissement, est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà entendu parler de Laurent Simon? Je m'en doutais bien. Mais Laurent Simon, si vous faites une petite recherche, vous allez voir, c'est un jeune surdoué. Il est né d'un père belge et d'une mère néerlandaise. Imaginez-vous qu'il est entré à l'université à l'âge de 9 ans. Il a maintenant 11 ans, puis il a obtenu un baccalauréat en physique. C'est pas pire, ça? Et moi, j'ai coulé ma physique, j'ai eu 28, moi, en physique. Imagine. Ça n'a pas de bon sens. Mais il y avait un article qui a été publié cet été à son sujet. Et savez-vous, c'était quoi le titre? Laurent Simon, l'enfant prodige qui veut découvrir l'immortalité. Wow, c'est quelque chose. Pourquoi? Parce que son rêve, c'est de pouvoir créer des organes artificiels pour aider ses grands-parents qui souffrent de problèmes cardiaques. Alors, il est motivé. Écoutez, je veux dire, c'est toute une grande motivation, hein, tu sais, quand tu as 9, 10, 11 ans, puis tu penses à des choses comme ça, et que tu te donnes des moyens pour y arriver, c'est phénoménal. Alors, des enfants comme ça, ils n'en courent pas les rues, hein, puis j'imagine que ses parents doivent être fiers de lui, tu sais, je veux dire, c'est un phénomène, c'est quelque chose d'inimaginable. Mais maintenant, on n'a pas besoin d'avoir un enfant surdoué pour être fier de lui, parce que à chaque fois qu'un enfant fait des progrès, s'améliore, ou ne serait-ce que démontre du respect envers les gens, mais en tant que parent, normalement, ça nous rend fiers. Et beaucoup d'adultes recherchent à entendre, spécialement de leur père, cette phrase, « Je suis fier de toi ». Et c'est incroyable le nombre de personnes que je peux côtoyer, que ce soit au niveau du coaching ou dans d'autres circonstances, qui ont à l'intérieur d'eux ce besoin d'entendre de leur père « Je suis fier de toi ». Et un grand nombre de personnes sur la planète souffrent d'avoir jamais entendu cette phrase « Je suis fier de toi ». Et savez-vous ce qui rend un père fier? C'est de voir son enfant progresser. Il y a eu un sondage qui a été piloté par la firme Crop. Et cette firme-là, Crop, a consulté des parents québécois. Et ce sondage a révélé que l'épanouissement personnel de leur enfant était à leurs yeux le sujet de fierté le plus important. Et là, pour sa part, Dieu, qu'est-ce qui rend Dieu fier de ses enfants? Eh bien, la parole de Dieu nous révèle que ce qui rend Dieu fier de ses enfants, c'est de voir sa sagesse contribuer à notre développement. C'est ce qu'on peut lire dans le Proverbe 23:15. Proverbe 23:15 nous dit « Mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi sera dans la joie. » Ça réjouit le cœur de Dieu d'être animé de sa sagesse, de démontrer sa sagesse en action. C'est pour ça qu'on a entamé une série sur l'Évangile dans les Proverbes qui a été amorcée la semaine dernière par le pasteur Normand. Parce que ça réjouit le cœur de Dieu de nous voir parler, agir, interagir et réagir avec sagesse. Quand Dieu manifeste sa sagesse au travers de nous, ça le glorifie. Ce qui est intéressant, c'est que le livre des Proverbes nous dévoile l'amour paternel de Dieu. On voit le cœur du Père envers son Fils et qui est en train de l'instruire pour qu'il devienne sage. Dans la première partie du livre des Proverbes, on voit un père qui donne des instructions à son fils. C'est Dieu qui instruit ses enfants qu'il a adoptés. C'est le père aimant qui instruit son fils, comme on peut le voir dans la vie courante. Hein? Les meilleurs moments pour instruire notre fils, c'est en marchant avec lui, dans la chaloupe, en conduisant notre enfant, par exemple, à la pratique de hockey ou de foot, en lui disant « Je veux que tu saches que je veux te donner ce qu'il y a de mieux. » Et moi, je peux vous dire une chose, même les erreurs que j'ai faites en tant que père, c'était toujours pour donner ce qu'il y avait de meilleur à mes enfants. C'est sûr que si c'était à recommencer, je ferais les choses différemment, mais la sagesse, hein, des fois, ça prend des années avant de la... avant qu'elle fasse son œuvre. Mais les proverbes nous enseignent également que cette sagesse qu'il veut nous offrir est un cadeau de lui à nous. C'est un cadeau qu'il veut nous offrir. Et derrière chaque proverbe, on voit un père qui œuvre en notre faveur pour nous protéger, pour nous sortir du pétrin, pour nous transformer, pour nous délivrer des pièges dans lesquels on est facilement tombé. Moi, je peux m'identifier à ça. Moi, je suis un gaffeur professionnel. Fait que c'est moi, souvent, je dis, « Hey, Seigneur, peux-tu m'en sortir de celle-là? Il me semble que j'ai besoin de ton aide, Père. » Les proverbes révèlent un Dieu actif qui travaille en notre faveur et qui nous offre de vivre de nouveaux départs reconstruits sur sa sagesse. Les proverbes ne peuvent se lire sans relation avec Dieu parce que cette relation fait appel au fait qu'on veut entendre le conseil de notre papa qui veut notre bien. Si on se tourne vers les proverbes pour recevoir la sagesse de Dieu, c'est parce qu'on veut se laisser instruire par lui. On veut comprendre son point de vue. On veut comprendre son optique. On veut apprendre ce qu'il y a pour nous. Puis on retrouve cette sagesse au travers de la personne de Jésus, qui est dépeinte dans les proverbes. Puis on le voit aussi en action dans les évangiles, manifester cette sagesse qu'on retrouve dans les proverbes. Et c'est au travers du livre des Proverbes qu'on découvre le caractère du Christ, sa pensée, ses agissements, son éthique, son étiquette, et ça dans plusieurs domaines de la vie, dans sa relation avec son père, dans sa gestion de sa vie personnelle, interpersonnelle et même professionnelle à certains égards. On va donc voir ensemble que plus la sagesse de Dieu guide notre vie, plus le Seigneur est glorifié par nos vies. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite à vous recueillir avec moi. On va demander à Dieu de parler à nos cœurs ce matin. Prions, s'il vous plaît. Gloire à toi, Seigneur. Père, on a tellement besoin que tu nous parles, que tu nous rappelles que tu nous aimes, que tu veux notre bien. Et si on vient à toi, si on est à l'écoute de ta parole, c'est parce qu'on veut recevoir de toi. Puisses-tu nous donner des paroles aujourd'hui, des pistes pour méditer et pour enrichir notre cœur tout au long de la semaine. On te le demande dans le nom de Jésus et pour la gloire de Jésus. Amen. Donc, pour bien comprendre la sagesse, c'est important de la définir. Et il y a plusieurs définitions qui sont intéressantes de la sagesse. Certains ont dit que la sagesse, c'est l'application de la connaissance ou la démonstration de l'intelligence. D'autres vont dire que c'est un comportement qui est conforme à une éthique. Évidemment, la sagesse peut être vue sous différents angles, parce que de toute façon, la parole de Dieu nous dit que la sagesse de Dieu est infiniment variée. Et celle qu'on retrouve dans le livre des Proverbes, c'est un savoir-faire ou un savoir-être qui glorifie Dieu en tirant son épingle du jeu face à un dilemme, un défi ou un conflit. Et on peut dire aussi que dans certaines situations, c'est l'art de s'élever au-dessus de la mêlée. Eh bien, on peut voir un bon exemple de cela dans la vie de l'auteur du livre des Proverbes. Prenons un de ses jugements, celui qui est devenu le plus célèbre, celui qu'on peut lire dans 1 Roi chapitre 3. Ce qu'on voit dans 1 Roi chapitre 3, c'est un exemple de sagesse qui s'est révélée au travers d'un dilemme. Le contexte, il y a deux femmes qui vivent ensemble, les deux sont enceintes. Elles vont accoucher à quelques jours d'intervalle et une s'endort sur son bébé. Et malheureusement, il décède, il meurt. La mère du bébé mort, elle fait preuve de supercherie. Elle prend son bébé mort, elle met auprès de l'autre maman. Elle prend le bébé de l'autre maman et elle le garde pour elle. L'autre maman prend conscience de ce qui s'est passé, évidemment, quand elle s'est réveillée. Et là, les deux femmes se présentent devant le roi Salomon pour qu'il puisse y avoir un jugement. Alors, il écoute la demande et... il écoute ce qui se dit, il écoute les deux côtés. Et là, il demande à ses serviteurs, Salomon, « Apportez-moi une épée. » Alors, il dit au verset 25, « Coupez en deux l'enfant qui est en vie et donnez la moitié à une puis l'autre moitié à l'autre. » Alors, la femme dont le fils était vivant a été remplie de compassion pour son fils puis a dit au roi, « Non, non, Seigneur, donne-lui l'enfant qui est en vie, fais-le pas mourir. » Mais l'autre, qui avait, par accident, qui s'était couché sur le bébé et qui l'avait fait mourir, a dit, « Non, il sera ni à moi ni à toi. Coupez-le. » Et Salomon, qu'est-ce qu'il dit? « Donnez l'enfant qui est en vie à la première femme. Ne le faites pas mourir. C'est elle qui est sa mère. » Et là, il y a eu ce discernement, il y a eu ce don de sagesse pour aborder le sujet et, évidemment, tirer son épingle du jeu, se sortir de la mêlée. Alors, ce jugement a contribué à la renommée de Salomon. Et puis, c'est pas juste que ça a contribué à la renommée de Salomon. Il y a un enfant qui a retrouvé sa mère et Dieu a été glorifié au travers de ça. Alors, Jésus aussi est un exemple de sagesse. On le voit dans Matthieu 21 et on pourrait citer plein d'exemples de Jésus. Dans Matthieu 21, il s'est élevé au-dessus de la mêlée en faisant la part des choses lorsqu'on l'a confronté à un dilemme. Et souvent, c'est là que la sagesse de Dieu se révèle, devant un dilemme. Qu'est-ce qui est dit dans Matthieu 21? « Dis-nous ce qu'il t'en semble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? » En d'autres mots, est-ce que l'argent qui devrait servir à glorifier Dieu doit être donné à un dirigeant qui ne dirige pas l'Empire selon les voies de Dieu? Et dans Matthieu 22-21, eh bien, Jésus répond en disant, « Donnez à César ce qui est à César et donnez à Dieu ce qui est à Dieu. » Et c'est là qu'il a confondu tout le monde. Mais c'était une parole de sagesse. La sagesse dans la vie de tous les jours, c'est de l'art de s'élever au-dessus de la mêlée, de surmonter un défi, de trouver son chemin quand on fait face à un dilemme ou une impasse. Et comme on l'a vu avec le pasteur Normand dans le Proverbe 1:7, le point de départ de la sagesse, c'est de révérer Dieu. Parce que la sagesse glorifie Dieu. Puis, à chaque fois que la sagesse de Dieu se manifeste, eh bien, c'est à l'honneur de Dieu. Et ce qui est encourageant, c'est que le Seigneur nous offre sa sagesse. Il la donne à ceux qui désirent glorifier Dieu dans leur vie. C'est ce qu'on peut lire dans Proverbes 2, les versets 3 à 6. « Oui, si tu as fait appel au discernement, si tu cherches l'intelligence, si tu la recherches comme de l'argent, si tu creuses pour la trouver comme pour découvrir des trésors, alors tu comprendras ce qui est révéré. » Alors tu comprendras ce qui est révéré, ce qu'est révéré l'Éternel, et tu apprendras à connaître Dieu, car l'Éternel donne la sagesse, et ce sont ses paroles qui procurent la connaissance et l'intelligence. Dieu la donne, Dieu l'offre, Dieu dit, elle est disponible, cette sagesse-là. Maintenant, pourquoi Dieu veut nous la donner au travers le livre des Proverbes? Bien, pour mettre en valeur l'Évangile, parce que les proverbes nous enseignent que la folie est attachée au cœur de l'enfant. Puis moi, en tant qu'enfant de Dieu, je suis davantage guidé par ma vision des choses, ce qui m'amène plus souvent qu'autrement dans le pétrin. Et, puis moi, je peux vous dire une chose, j'ai besoin de la sagesse de Dieu, j'ai besoin de l'Évangile pour être sage, parce que pour moi, c'est tellement facile de dire des niaiseries, là. C'est facile. Ça sort. Dans ma tête, il y a tellement de niaiseries qui se passent là, dans un quart de seconde. C'est incroyable. C'est un peu comme un trampoline. Moi, les niaiseries sautent, puis ça saute, ça n'arrête pas. T'sais. Puis le Seigneur m'a appris à faire attention à ma langue parce que sans m'en rendre compte, il y a des fois que par mes niaiseries, j'ai blessé des gens. Je ne voulais pas te faire pleurer, excuse-moi. À un moment donné, il faut que je vous en conte une. Et que je ne suis pas fier de celle-là. Je ne suis vraiment pas fier. Mais tu sais, juste pour vous montrer comment j'ai pu être niaiseux, être cave, ça n'a pas de sens. Bon, j'avais peut-être 19-20 ans dans ce temps-là. Il y a un mariage. Là, je vois une madame qui vient, puis le mari, il me présente sa mère. T'sais. Puis sa mère avait des grosses mains. Elle me donne la main. Là, je suis impressionné. Puis là, spontanément, je dis une niaiserie, je dis, « Ouais, j'aurais pas aimé ça, avoir une claque sur les fesses avec des mains de même. » C'est comme, c'est sorti de ma bouche, j'étais comme, « Ah! » trop tard, c'est sorti, si je voulais la récupérer. Puis la... Là, j'ai vu sa face, sa tête penchée. Qu'est-ce que je viens de dire là? Là, je me sentais mal, j'étais tout à l'envers. Je vais la revoir, je dis, est-ce que vous voulez me pardonner? Puis là, elle se met à pleurer. Elle dit, moi, j'ai élevé mes enfants tout seul, puis j'ai jamais frappé mes enfants. Là, j'ai vu que, hey, une niaiserie, ça peut blesser des gens, c'est incroyable. Et c'est pour ça que j'ai besoin de l'Évangile pour être sage, parce que c'est tellement facile pour moi de réfléchir après avoir parlé. Et c'est exactement ce que le Nouveau Testament nous démontre dans Tite 2, 11 à 13. Je vous invite à le prendre en note et le relire. Tite 2, 11 à 13, dans ce passage, on constate que l'Évangile nous enseigne à vivre avec nos contemporains conformément à la sagesse de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui nous enseigne à vivre conformément à la sagesse. Et les proverbes sont remplis de ces cadeaux qui nous sont donnés. C'est par la sagesse que Dieu nous donne que l'Évangile peut être observé au travers de nos vies. Quand on reçoit la sagesse de Dieu, quand la sagesse de Dieu nous habite dans nos paroles, dans nos comportements, dans nos actions, dans nos interactions, ça glorifie Dieu dans le siècle présent. Et si Dieu était capable de me donner de la sagesse dans certaines circonstances, vous pouvez me croire, il peut la donner à n'importe qui. Écoutez, quand j'étais à l'école, là, j'étais celui qui battait les records de retenue. OK, pour ceux qui ne sont pas nés au siècle dernier, là, à cette époque, dans l'ancien temps, les retenues, ce n'était pas que tu avais un cours qui t'apprenait à retenir ta langue. Les retenues, c'est que tu allais passer dans un local, puis tu attendais debout, en silence, parce que tu avais fait une niaiserie à l'école. Ça pouvait être une demi-heure, une heure, tout dépendant. Puis ça a progressé. Au début, on était debout en silence. Après ça, ils nous donnaient des choses à écrire, comme des textes à lire puis des réponses. Mais moi, j'écrivais des niaiseries. Je disais, ah, ma grand-mère, pourquoi dans ce texte, l'auteur nous parle de la bonté? Ben, je dis, parce que ma grand-mère a compté un but au hockey avec un ballon de football. J'écrivais toutes sortes de niaiseries, tu sais. Puis après ça, ils disaient, bien, OK, vu que ça ne sert à rien faire ça, on va leur permettre de faire leurs devoirs. Okay. Puis là, c'était pas pire, je faisais mes devoirs, j'arrivais chez nous, j'en avais plus. Mais moi, j'ai battu le record, j'étais toujours retenu. Pourquoi je disais des niaiseries à l'école? Ça n'a pas de sens. Puis, savez-vous quoi? Je peux dire une chose, c'est que Dieu est capable de transformer quelqu'un qui dit puis qui fait des niaiseries, puis est capable de donner de la sagesse puis de nous faire grandir en sagesse. Et moi, à chaque fois que Dieu me donne une pensée de sagesse, une parole de sagesse ou d'agir sagement, savez-vous quoi? Je peux juste glorifier Dieu parce que je sais que ça ne vient pas de moi. Je sais que ça vient de lui. Parce que ça me surprend à chaque fois. Et quand il me la donne, je peux juste rendre gloire à Dieu. Notre éthique de vie, notre bonne manière de vie, celle qui se démarque, qui est inspirante, ne vient pas de notre habileté personnelle en tant que chrétien, elle provient de la puissance de l'Évangile. C'est ce que Paul déclare dans 2 Corinthiens 1:12. Dans 2 Corinthiens 1:12, c'est écrit, « Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience que nous nous sommes conduits dans le monde, et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu. » Tu ne peux pas avoir plus lumineux que ça, se conduire devant les hommes et devant Dieu avec sainteté et pureté. Mais si on s'arrête là, on perd le punch. Parce qu'il dit non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Ce n'est pas par mes habiletés personnelles, ce n'est pas par mes capacités personnelles, ce n'est pas par la sagesse que j'ai développée que je vais glorifier Dieu. Mais c'est par la puissance de son Évangile. Paul dit qu'on se glorifie de la sagesse de Dieu parce qu'elle nous amène à nous démarquer au travers de l'intervention de l'Évangile dans nos vies, au travers une faveur de Dieu qu'on ne mérite pas de recevoir, mais qui est donnée par Dieu pour qu'on puisse le glorifier en agissant pour le bien du plus grand nombre. C'est quand j'ai besoin de la grâce de Dieu que je vois Dieu à l'œuvre, je vois Dieu pour moi, je vois Dieu pour ma femme, pour mes enfants, pour les gens autour de moi. C'est la puissance de l'Évangile qui agit dans mon cœur, qui produit des résultats. des résultats qui me dépassent. C'est ce qu'on voit dans Éphésiens 3, les versets 20 et 21. Éphésiens 3, 20 et 21, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, la puissance de l'Esprit, la puissance de l'Évangile, cette puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. C'est sa puissance qui agit en nous qui nous émerveille, qui dépasse notre compréhension. Et Paul va même jusqu'à dire que cette sagesse que nous prêchons avait été destinée pour notre gloire. C'est ce qu'on lit dans 1 Corinthiens 2, 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu, cette sagesse de Dieu qui repose sur la croix, sur la puissance de la croix, sur Christ crucifié, ressuscité. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Dieu veut nous glorifier par sa sagesse parce que ça réjouit le cœur de Dieu de nous voir sages, comme on peut le voir dans Proverbe 27, 11. Proverbe 27, 11. Jésus nous dit quelque chose de similaire dans Jean 15, 8. Jean 15, 8, il dit, « Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Plus l'Évangile produit de la sagesse dans ma vie, plus je lui fais honneur dans un monde qui a de plus en plus besoin de la sagesse de Dieu pour retrouver sa sérénité et sa paix intérieure. » Parce que Proverbe 3, 1 et 2 nous dit que sa sagesse procure la paix à notre âme. Or, c'est la paix de Dieu qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. C'est la paix de Dieu qui provient notamment de sa sagesse qui nous amène à agir, à interagir et réagir selon le cœur de Dieu, à glorifier Dieu. Plus je dépends de l'Évangile, plus je vois mes manquements, moins je peux taper sur la tête de mon voisin. Parce que je vois mon incapacité, mais je vois Dieu me donner les ressources au travers de la sagesse pour grandir, croître. Et c'est son œuvre dans mon cœur, dans notre cœur. Moi, j'ai tellement besoin de cette sagesse de Dieu parce que tous les jours, je fais face à des défis. Puis souvent, ils me dépassent. Que ce soit avec ma femme, mes enfants, mes collègues, les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux ou dans les médias. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu donne sa sagesse. Elle est disponible pour nous. Dans Jacques 1, les versets 3 à 7, il nous dit que si on manque de sagesse, on n'a qu'à la demander. Je me souviens quand j'étais au Saguenay comme implanteur d'église, j'avais une vieille voiture. Puis à un moment donné, je n'avais pas d'argent pour la réparer. Mais mon collègue pasteur, il m'a prêté la sienne, il n'avait pas besoin à ce moment-là. Et bon, j'avais mon stationnement, j'avais un appartement sur la rue Sidonam à Chicoutimi. Mais il y avait un stationnement pour les visiteurs, donc je mettais l'auto de Réal là. Mais là, à un moment donné, la dernière journée, j'allais porter l'auto à Réal, il y a un gars qui rouvre sa fenêtre. Il dit, « Toi, mon bip, bip, bip! » Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Il dit, « Là, là, t'arrêtes pas d'utiliser le stationnement de visiteurs, c'est pas pour toi, c'est pour les visiteurs! » Là, je me dis, ah boy, j'avais le goût d'y lancer des mots d'église, tu sais, puis c'est là, il y a une pensée de Dieu qui est venue dans mon cœur, je ne sais pas d'où elle vient juste de Dieu, puis c'est comme ça a changé mon attitude. J'ai dit, le Seigneur m'a dit, dis-y ça. Merci beaucoup, monsieur, pour votre patience. Parce que je sais que j'en ai abusé un petit peu. Merci, c'est la dernière journée aujourd'hui. Et comptez sur moi, je vais collaborer. Et le gars, il s'attendait à ce que je m'ostine avec. Puis ça a été mon tempérament, ça. Dire, hey, toi, là, t'as pas de compassion, puis tu comprends pas ce que c'est. C'est comme je m'en allais me justifier. Puis ça, c'était mon réflexe. Mais Dieu donne sa sagesse. Mais vous allez peut-être me dire, « Éric, moi, je la demande des fois au Seigneur, mais il ne me la donne pas. » OK. Il y a des conditions qui sont exprimées dans la parole de Dieu qui fait que Dieu ne donne pas sa sagesse. Dieu ne donne pas sa sagesse à ceux qui s'entêtent à ne pas lui faire confiance. C'est ce qu'on voit dans le Proverbe 1, les versets 23 à 32. Donc, ceux qui s'entêtent à ne pas lui faire confiance, Il est possible que Dieu cache sa sagesse. Mais par contre, parfois, comme je vous ai donné des exemples, Dieu peut donner de la sagesse dans une circonstance, puis avoir l'idée, avoir la réaction qui comble le besoin. Mais d'autres fois, elle ne s'obtient pas nécessairement instantanément. Des fois, ça demande de la patience. Pourquoi? Parce qu'elle s'obtient souvent en écoutant. C'est ce qu'on peut lire dans Proverbes 1, 5 et 6. Et ça, messieurs, je vous dis que c'est un bon conseil de sagesse quand c'est le temps d'écouter notre femme particulièrement. Parce que le punch est souvent à fin. C'est pour ça qu'il ne faut pas l'interrompre quand elle est dans un élan. Le punch est à la fin, les gars. C'est là que ça se passe. C'est là qu'on comprend tout. Alors, que le sage écoute et il augmentera son savoir. Celui qui est intelligent gagnera en habileté pour comprendre les proverbes et les paraboles, les paroles des sages et leurs énigmes. Écoutez. C'est un des plus grands besoins du 21e siècle, de savoir que quelqu'un nous écoute. Plus j'écoute, plus je peux comprendre ce qui se dit, ce qui se vit, ce qui se cache derrière les mots. Écouter, c'est la plus haute forme de sagesse, parce que même l'insensé, quand il se tait, passe pour un sage. C'est ce qu'on voit dans Proverbes 17, 28. Même le fou, quand il se tait, passe pour un sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Et Patrick Huard l'a compris, ça. Alors, plus j'écoute, plus j'ai l'air sage, et plus j'écoute, plus j'ai la possibilité de devenir sage. Surtout si j'écoute pour essayer de comprendre. En d'autres mots, même notre silence glorifie Dieu. Je désire également cette sagesse parce qu'elle est un symbole de maturité et d'expérience. Vouloir être sage est un signe d'humilité parce que seul un sage veut apprendre d'un plus sage. Jésus nous dit dans Matthieu 11, 29, de venir à lui pour être instruit. Lui qui a été fait pour nous sagesse. Dans 1 Corinthiens 1, 30. Maintenant, autant l'écoute nous aide à grandir en sagesse, autant il y a un obstacle qui peut réduire notre capacité d'être sage. La recherche a observé que lorsque je dis « je sais, je le sais, ah ouais, je le sais », notre cerveau n'est plus en mode d'apprentissage. C'est comme si les portes de l'ascenseur se ferment. Je le sais, j'ai plus besoin d'apprendre, je le sais. Maintenant, c'est vrai qu'on sait des choses, on connaît des principes, qu'on a emmagasiné des informations au fil du temps. Par contre, pour ne pas freiner notre développement, on peut le reformuler d'une autre façon, comme « c'est intéressant, c'est un bon rappel, j'ai besoin de le réentendre, j'ai besoin de me le répéter, je ne l'avais pas vu sous cet angle, moi aussi je pense ça, ça fait du bien à entendre, etc. » Donc, d'être ouvert et de laisser justement notre écoute, laisser notre interlocuteur nous parler et être à l'écoute. Alors, pour recevoir la sagesse de Dieu, j'ai besoin, premièrement, de reconnaître mon besoin de sagesse, mon manque de sagesse. C'est ce qu'on voit dans Jacques 1, 5. À un moment donné, j'étais dans l'auto avec ma femme, puis je cherchais à la corriger, tu sais, en disant, « Alors, pourquoi tu t'inquiètes? Fais-t'en pas, ça va bien aller. » Tu sais. Et là, mais je voyais que, bon, ça met de l'huile sur le feu. Ça la rendait plus stressée encore. C'est qu'en une, Seigneur, j'étais là dans ma tête pendant qu'elle parlait. C'est comment ça se fait, Seigneur? J'essaie de l'encourager, mais ça fait pire. Là, Seigneur, peux-tu me donner ta sagesse, s'il vous plaît? Écoute-la. OK. Je l'écoute, puis je dis, ah, chérie, dans le fond, tu as juste besoin d'être rassuré. Hein? Ah, ben oui, c'est pas grave. La personne, là, elle te connaît, elle ne te verra pas sous cet angle-là parce que tu n'es pas caractérisé par ça. Puis là, c'est pouf, tout a tombé. Recevoir la sagesse de Dieu en la demandant, en apprenant de nos erreurs. Le psaume 32:10b nous dit, celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. La grâce de Dieu me rend sage parce que j'ai besoin à chaque fois que j'ai passé à côté de ce qui est sage aux yeux de Dieu. C'est quand je vois mon manquement que là, j'arrive à Dieu et dis, là, j'ai besoin de ta sagesse. Je veux apprendre pour mieux faire. Pour recevoir la sagesse de Dieu, j'ai besoin aussi de laisser la souffrance et le deuil m'instruire. Lorsqu'on compare le texte d'Hébreux 5:8 et de Luc 2:52, on voit que c'est au travers de la souffrance que Jésus, notre modèle, a grandi en sagesse, en stature et en grâce. On apprend les vraies leçons de la vie au travers de la souffrance et le deuil. Les plus grandes leçons de vie, en fait. M'inspirer de Jésus, si je veux recevoir la sagesse de Dieu, j'ai besoin de m'inspirer de Jésus. C'est en l'observant dans les évangiles que je vais devenir sage. Lorsqu'il est mis au défi par ses adversaires, lorsqu'il aborde les gens, il tient compte de leur identité, de leur contexte. Et quand il garde le silence, la sagesse de Dieu parle. Il y a un temps pour se taire, un temps pour parler. On le voit dans le Proverbe 26, 4 et 5. Hein, vous savez, ces deux versets, un après l'autre. Ce n'est pas une erreur de parcours. Ce n'est pas une distraction du Saint-Esprit. Ne réponds pas à un homme stupide suivant sa folie si tu ne veux pas lui ressembler toi-même. Réponds à un stupide suivant sa folie si tu ne veux pas qu'il se considère comme sage. Et là, on dit, ben oui, on répond-tu ou on ne répond pas? Ben, ça dépend du contexte. C'est la deuxième partie qui révèle quand répondre ou quand ne pas répondre. Lorsqu'une stupidité est dite, si tu veux paraître pour un sage, réplique pas. Si tu veux qu'il sente qu'il n'a pas l'affaire, réponds-lui par une bêtise. Ça va faire toute la différence. Je me souviens une fois, je t'ai interviewé au 98.5 par Benoît Dutrisac. Puis, il me dit, « Ah, je suppose que vous, parce que vous êtes chrétien, vous regardez pas la télé, hein? » J'ai dit, « Non, je la regarde pas. » Là, il me regarde. Ah, je le savais. Je dis, ben non, c'est une farce. Et là, ça y a coupé les jambes. Ça y a coupé les jambes. On va dire, voyons donc, je suis au 21e siècle. C'est pas parce que je suis chrétien et je regarde pas la TV. Voyons donc. C'est comme, il y a un temps pour se taire, mais il y a un temps pour dire, ah, je me souviens, je travaillais dans une épicerie. J'étais en charge des produits congelés puis réfrigérés. Tu sais, je travaillais pas à SQDC, là. Je travaillais dans une épicerie. Alors, là, à ce moment-là, voyez-vous comment j'en sors des niaiseries, ça n'a pas de bon sens. Elle n'était pas dans mes notes, celle-là, en plus. J'aurais dû me taire. Bon, merci Seigneur pour ta grâce. Amen. Alors, là, fallait toujours que je passe par la boucherie pour aller dans les congélateurs, tu sais. Mais le responsable de la boucherie, lui, il n'était pas bouché pantoute. Il n'arrêtait pas de me taquiner puis souvent de m'insulter parce qu'il savait que j'étais chrétien. Tu sais, j'avais témoigné, tout ça, j'avais donné un dépliant. Dans ce temps-là, on donnait des dépliants, là, des petits papiers, là, des traités qu'on appelait à l'époque. Fait que là, lui, là, il se moquait de moi. Il n'arrêtait pas de se moquer de moi. Puis le Seigneur disait, je n'avais pas écouté Patrick Huard dans ce temps-là, mais le Seigneur, il me disait, boucle-la. Tu sais, fait que, OK. Là, il n'arrêtait pas de m'insulter. Devant le monde, devant les autres. Hey, toi, le chrétien. Le Seigneur disait, boucle-la. À un moment donné, il m'en lance toute une zoom, pow! Et là, je me lève, j'étais en train de titiller, c'était avec une boîte, je me lève, je le regarde dans les yeux, je dis, gentiment, mais avec un peu de mordant, j'ai dit, sais-tu quoi? Je suis chrétien, mais je ne suis pas crétin. Et là, je me suis retourné au travail. Et là, la mâchoire, il a lancé à frotter le plancher, il était comme déstabilisé. Tu sais. Et savez-vous quoi? À la fin, quand j'ai quitté cette entreprise-là, je me souviens toujours. Il dit, wow, Eric, j'ai vu que ton poste est affiché dans le corridor. Il dit, tu t'en vas? Il me donne la main, il dit, tu sais, on est deux gars colorés, mais j'ai tellement aimé ça, travailler avec toi. Tu sais, voyez-vous, c'est l'impact de Dieu. C'est l'impact de Dieu. Je rends gloire à Dieu qui a produit cet effet-là. Ici, dans le Proverbe 26, 4 et 5, c'est le résultat qui détermine l'action de répondre ou non à des propos insensés ou déplacés. C'est pour ça que j'ai besoin de m'entourer de gens sages, de modèles, de gens inspirants, en investissant dans l'instruction, en me laissant instruire par des auteurs sages, des orateurs sages. Proverbe 4, les versets 7 et 8, Proverbe 4, 7 et 8 nous dit, « Voici le commencement de la sagesse. Acquiers la sagesse avec tout ce que tu possèdes. Acquiers l'intelligence. Tiens-la en haute estime et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire quand tu l'embrasseras. » Et développer aussi la sagesse par le coaching. Et c'est là que le proverbe 13-20 nous dit, la première partie, « Qui fréquente les sages devient sage. » Est-ce que vous vous entourez des gens sages? Et moi, j'aimerais m'entourer de sages musiciens pour qu'ils puissent terminer cette célébration. Et la recherche démontre qu'un enfant a besoin de savoir que son père est fier de ce qu'il est et de l'adulte qu'il devient. Plus il développe des liens intimes avec son père et des intérêts communs avec son père, plus il va sentir, il va décoder que son père est fier de lui. Plus je développe une relation intime avec mon Père céleste qui est sage, plus je réalise qu'il est pour moi et non contre moi. Et surtout qu'il est fier de moi lorsque sa sagesse m'éclaire, me guide et est à l'origine de mes choix, de mes paroles et de mes relations. Plus je suis inspiré de Dieu, plus sa sagesse me réjouit et plus Dieu est glorifié dans ma vie. C'est pourquoi, comme Salomon, on a intérêt à la chercher comme un trésor. Parce que lorsque chacun de nous, on est animé de la sagesse de Dieu, qui trouve racine en Jésus-Christ, puis dans le message de l'Évangile qu'on retrouve dans les Proverbes, plus je le glorifie. En d'autres mots, plus je reçois la sagesse de Dieu qui provient de l'Évangile dans le livre des Proverbes, je le glorifie. Alors, est-ce que tu veux que l'Évangile qu'on retrouve dans le livre des Proverbes puisse guider ta vie et glorifier Dieu? Mais si c'est le cas, je t'invite à prier avec moi et on va demander à Dieu qu'il nous fasse grandir en sagesse. Seigneur, plus je vois mes manquements, plus je veux grandir en sagesse. Apprends-moi à la chercher au travers l'Évangile, à la désirer encore plus et à la chercher spécialement comme un trésor. Merci Seigneur pour le trésor de la croix. Parce qu'au travers la croix, on voit ta sagesse. Tu payes pour nos fautes. Tu nous rappelles que notre dette, elle est payée. Nos manquements sont payés. Nos péchés sont payés. Nos transgressions sont payées. Notre rébellion est payée. Et c'est Jésus-Christ qui l'a payée. Même ta rédemption transpire la sagesse, Seigneur. Quel plan merveilleux. Merci de continuer à sauver. Merci de parler au cœur des gens qui n'ont pas passé par la nouvelle naissance, qui n'ont pas cette assurance d'avoir cette vie éternelle avec toi. Apprends-nous à être sages. Merci pour l'Évangile qui nous rend sages, parce que c'est plus grand que nous. Ta sagesse, elle est trop grande, mais on en a besoin, Seigneur. Merci que tu la donnes, dans le nom de Jésus. Amen. Merci, bonne semaine.